France Culture.
Et le journal vous est présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Chloé, bonjour à toutes et à tous.
Et l'on commencera avec un tableau sombre, celui d'une réalité largement occultée.
Oui, des monstruosités, un état défaillant. Voici peu ou prou résumé les conclusions de la commission parlementaire sur les violences en milieu scolaire lancée après le scandale Betarame. François Bayrou n'est pas épargné. Au total, la commission recommande une cinquantaine de mesures pour agir.
Le thermomètre va enfin baisser à partir de demain.
Ce qui ne signifie pas d'ailleurs, on le verra, que cet épisode de canicule ne laissera pas de traces durables cet été.
L'actualité à l'étranger, c'est notamment le coup de fil d'Emmanuel Macron à Vladimir Poutine.
Il en se rendra à Moscou. La presse russe elle-même se demande ce qui a bien pu décider le président français à décrocher son téléphone. Et puis on s'interrogera sur les risques encourus sur le champ de bataille par l'Ukraine après l'annonce de la cessation de livraison d'armes américaines. François Bayrou survivra-t-il à un été suffocant dans la fournaise de ce début de semaine? Le Premier ministre a certes échappé hier à sa 8e motion de censure depuis son arrivée à Matignon, en particulier grâce à l'indulgence des élus du Rassemblement National, un énième sursis. Donc, sauf qu'avec l'absence de majorité que l'on connaît à l'Assemblée, le prochain changement de saison s'annonce en réalité tout aussi dangereux avec les débats budgétaires prévus à l'automne prochain. Et puis surtout, l'événement le plus bouillonnant de cette semaine avait lieu ce matin, même avec la publication donc des conclusions de la commission d'enquête parlementaire sur les violences en milieu scolaire créée dans la foulée du scandale Betarame. Noémie Bonin, bonjour.
Bonjour.
Avant de s'intéresser aux préconisations de la dite commission, que retiennent justement les co-rapporteurs de l'implication de François Bayrou dans l'affaire Betarame ?
Alors, le nom du Premier ministre est cité à de multiples reprises dans ce rapport épais de 330 pages. Il apparaît une quarantaine de fois et dès l'introduction, au sujet par exemple de la lanceuse d'alerte, une ancienne professeure de maths de Betarame, qui avait alerté en 1995 François Bayrou, alors ministre de l'Éducation, sur les violences qui étaient commises dans cet établissement privé catholique du Béarn. L'acharnement qu'elle a vécu lors de la dénonciation de ces atrocités est encore légitimé par certains et parmi eux François Bayrou, dénonce la présidente socialiste de la commission d'enquête, qui poursuit « L'utilisation du préjugé sexiste de la femme hystérique dans l'unique but de discréditer sa parole est particulièrement inacceptable de la part du Premier ministre. »
Parce que toute la question, Noémie, c'est de savoir si François Bayrou était au courant de ces violences dès les années 90.
Voilà, les co-rapporteurs rappellent que la violence était institutionnalisée à Betarame, qu'elle était même réputée dans toute la région. Certaines familles y envoyaient leurs enfants pour les punir. Pour autant, l'établissement pouvait compter sur le soutien de notables locaux et de personnalités nationales comme, entre autres, François Bayrou, y compris après les alertes qui révélaient des faits de violence. Les co-rapporteurs parlent aujourd'hui de défaillance, voire de complicité de la part des pouvoirs publics. Pour les députés, c'est clair, François Bayrou savait, il avait les moyens d'agir mais n'a rien fait. Une inaction qui a laissé les violences se perpétuer. Le rapport parle même de déni des violences infligées aux élèves de la part du Premier ministre.
Et que proposent Noémie, donc les rapporteurs de la commission d'enquête, pour éviter de nouveaux drames ?
Alors, 50 recommandations allant de la reconnaissance des victimes au soutien des personnels qui signalent des violences en passant par le tabou, écrivent les députés, des contrôles de l'État sur les établissements privés. Quand on regarde dans le détail, le rapport propose par exemple de reconnaître officiellement la responsabilité de l'État pour les carences qui ont permis ces violences et de créer un fonds d'indemnisation. Il recommande également d'inscrire dans le code de l'éducation l'interdiction de tout châtiment corporel à l'égard des enfants. L'une des mesures phares, c'est la création d'une cellule nationale baptisée Signal Éduc, de recueil des signalements de violence destinés au personnel et parents d'élèves. Les députés imaginent enfin un contrôle plus régulier des établissements privés, tous les 5 ans au plus, tous les 3 ans pour ceux qui ont un internat dans le secondaire, tous les ans pour un internat en primaire.
Merci Noémie Bonin. Alors j'évoquais en début de ce journal cet épisode de forte chaleur inhabituelle, susceptible parfois d'échauffer les esprits, mais plus sûrement de provoquer déshydratation et crampes musculaires. A priori, cette anomalie du thermomètre devrait s'estomper à partir de demain, ce qui ne signifie pas pour autant que la prudence n'est pas toujours de mise. Véronique Robérot, bonjour.
Bonjour.
La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a organisé ce matin une cellule de crise, l'occasion notamment de rappeler que si le pic de chaleur a bel et bien été atteint, Les effets de cette canicule précoce, Véronique, risquent de s'installer durablement.
Oui, car ce mois de juin 2025 est le deuxième mois de juin le plus chaud jamais enregistré en France depuis 1900, derrière juin 2003, qui enregistrait aussi une anomalie de plus de 3 degrés par rapport à la normale. Même fournaise en 2025 qu'en 2003, le risque est bel et bien là. Et ce matin, la ministre de la Transition écologique a fait savoir que 2 personnes étaient décédées à la suite de malaises liés à la chaleur, sans autre précision et même confirmation pour l'instant. Premier décès imputé à la chaleur. D'autres liens pourraient d'ailleurs être faits dans les heures, dans les jours qui viennent. Agnès Pannier-Runacher.
Ce type de calcul se fait après l'épisode et en prenant un petit peu de recul, puisque vous n'avez pas des gens qui se déclarent aux urgences en disant « ma pathologie s'est aggravée parce que j'ai été exposée à la chaleur ». Donc ça, c'est un travail qui est fait en règle générale par Santé publique France en regardant la surmortalité par rapport à un épisode climatique. Là, il y a 2 morts qui sont très directement liées à, effectivement, un malaise dû à la chaleur. Quand vous avez quelqu'un qui, suite à un effort physique, s'effondre du fait de la chaleur, là, il n'y a pas de doute entre la canicule et malheureusement la cause du décès.
Alors, autour de 360 personnes ont été admises aux urgences à cause de la chaleur, une chaleur qui recule hein, dès aujourd'hui par l'Ouest, avec plusieurs inquiétudes malgré tout. 77 départements sont en vigilance, jaune, orage attendu dès aujourd'hui, possiblement violent, mais cette canicule laisse aussi des traces avec une situation de sécheresse qui s'amplifie. 10 départements sont déjà en alerte crise sécheresse dans le Sud, mais aussi dans l'Indre, le Loiret et les Ardennes, inhabituels pour ces 3 départements qui voient déjà leurs cours d'eau et leurs nappes phréatiques prématurément asséchée avant un été sec, prévoit Météo France.
Merci Véronique Robérotte. Alors il se trouve que demain la Terre sera à son point d'orbite le plus éloigné du Soleil, soit plus de 152 millions de kilomètres, sauf que cette distance n'a en réalité aucune espèce d'influence sur le chaud ou le froid saisonnier. Ce n'est pas notre proximité plus ou moins grande avec le Soleil qui détermine l'intensité du réchauffement solaire, mais le niveau d'inclinaison de notre planète par rapport à son étoile. Et après tout, la question ne se poserait-elle pas dans les mêmes termes s'agissant des tentatives de rapprochement entre les différents groupes de gauche? En d'autres termes, le plus important ne tiendrait-il pas non à leur proximité idéologique a priori acquise, mais à leur inclination à faire un geste les uns vers les autres? Dans tous les cas, le pari de l'ex-candidat du Nouveau Front Populaire pour Matignon, Lucie Castet, appuyant cela d'ailleurs par la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier. Les deux femmes ont prévu d'inviter toute la journée des formations de gauche à se retrouver à la mairie de Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, du moins celles qui y sont disposées, sachant que l'idée à terme, Marion Ferrer, c'est de discuter des conditions d'une éventuelle candidature commune pour 2027.
Le but, réunir la gauche au sens large afin de partir gagnant pour la prochaine élection présidentielle et donc éviter l'éclatement des voix. L'idée est de mettre en place un calendrier de travail, de poser les bases d'une unité de gauche, pouvoir dans les mois à venir élaborer des idées communes de programme, mais aussi définir la méthode de désignation d'un candidat unique. Le mot n'est pas encore clairement dit, mais d'aboutir à une primaire déjà défendue par Clémentine Autain et François Ruffin et proposer une gauche différente de celle des Insoumis et de Jean-Luc Mélenchon, qui ont d'ores et déjà refusé de participer à la rencontre. Aucun problème, nous glisse un membre du PS. Aujourd'hui, ne seront présents à Bagneux que des groupes voulant avancer ensemble, nous assure-t-on, alors qu'aucune discussion n'est possible avec Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il a décidé qu'il sera de toute manière candidat en 2027, uniquement avec son programme, ajoute ce socialiste qui pointe aussi des divergences d'idées avec les Insoumis. Absents également les communistes et Fabien Roussel, du côté des écologistes. On espère qu'ils rejoindront le mouvement plus tard, une fois les alliances pour les municipales en 2026 scellées. Place publique et Raphaël Glucksmann semblent avoir aussi décliné l'invitation. C'est regrettable, nous dit-on, en répétant que les portes restent ouvertes. L'histoire jugera ceux qui ont voulu jouer de manière personnelle, prévient une écologiste.
Un an après des violences meurtrières et à l'issue d'un cycle de négociations toujours bloqué, la Nouvelle-Calédonie est exsangue. Une sortie de crise est-elle encore possible? Emmanuel Macron ouvrira un sommet cet après-midi à Paris avec l'ambition de tracer un avenir à la fois politique, économique et social au territoire ultramarin du Pacifique Sud. Emmanuel Macron, toujours lui, s'est entretenu hier avec son homologue russe, Vladimir Poutine, un échange téléphonique de plus de 2 heures après 3 années de silence. L'occasion surtout de constater leurs divergences irréconciliables sur le conflit en Ukraine. De quoi s'interroger, le chef de l'État français a-t-il eu raison de briser ainsi l'isolement diplomatique du maître du Kremlin? En tout cas, en Russie, la presse, Sylvain Tronchet, semble se réjouir de cet échange et y voit une opportunité d'accentuer la stature de Moscou comme acteur majeur aujourd'hui de la géopolitique.
À peine le Kremlin avait-il annoncé qu'un coup de fil avait eu lieu entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine que les médias russes avaient déjà sorti la calculatrice. Cela faisait 1024 jours qu'ils ne s'étaient pas parlé, rappelant l'activité intense autrefois sur la ligne Paris-Moscou en 2022. Emmanuel Macron était alors le recordman des conversations avec le chef du Kremlin. Mais pourquoi a-t-il donc de nouveau décroché son téléphone, s'interrogent les médias russes. Évidemment, la crise au Moyen-Orient a été l'occasion, mais certains médias pro-Kremlin y voient d'autres raisons plus troubles. Emmanuel Macron aurait voulu doubler le chancelier allemand Friedrich Merz, qui lui refuse de parler à Vladimir Poutine. Il l'a fait pour tenter de rehausser sa cote de popularité, a même osé à la télévision le propagandiste Vladimir Solovyov. D'autres y voient le fait que la France admet enfin que la Russie est incontournable et va gagner la guerre en Ukraine. Sur le dossier ukrainien, d'ailleurs, tous s'accordent à dire néanmoins que les positions sont encore trop éloignées pour espérer un quelconque progrès. Mais tous les journaux le notent bien, les deux présidents ont prévu de se rappeler.
Après que l'information avait fuité dans plusieurs médias américains, Washington a confirmé hier avoir stoppé certaines livraisons d'armes à Kiev, notamment des missiles de défense anti-aérien, et ce au moment même où l'Ukraine fait face pourtant à une intensification des attaques aériennes de l'envahisseur russe. La Maison-Blanche se justifie en disant s'inquiéter de la baisse de ses propres stocks de munitions. Reste à savoir quelles seront les conséquences à venir de ce désengagement vers Kiev sur le champ de bataille. Élément de réponse avec Eric Bigala.
Ce sont notamment les missiles pour batterie Patriot qui risquent de faire défaut. L'Ukraine dispose d'une demi-douzaine de ces batteries et s'en est servie pour abattre les missiles les plus puissants de l'arsenal russe, comme les missiles balistiques ou des missiles de croisière hypersonique comme le Kinjal. Aucun autre système d'armes ne semble en mesure d'égaler le Patriot en la matière. L'armée de l'air ukrainienne dispose encore d'un stock de ces missiles, au moins pour quelques mois, dit-elle. Mais de toute façon, vu le prix de chaque missile pour batterie Patriot, autour $1 million pièce, l'Ukraine se les réserve justement pour contrer les attaques russes les plus puissantes ou les plus véloces. Or, ces attaques aériennes russes se sont démultipliées. La dernière en date, dimanche dernier, a vu 477 drones d'attaque et 60 missiles tirés sur l'Ukraine. Ces tactiques russes de saturation des défenses antiaériennes, à chaque fois plusieurs centaines d'engins lancés en même temps, risquent de vite mettre la défense aérienne ukrainienne à rude épreuve, surtout que les Russes visent désormais les centres-villes, avec l'objectif probable de casser le moral, non plus des troupes, mais de la population ukrainienne elle-même.
L'administration américaine assure que l'État hébreu est prêt à s'engager pour un cessez-le-feu de 60 jours. Hier, Donald Trump a appelé le Hamas à accepter une ultime proposition qui lui sera bientôt présentée et dont le gouvernement de Benjamin Netanyahu aurait accepté de finaliser les termes, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs de nouveaux bombardements hier de tuer au moins 20 personnes dans l'enclave palestinienne assiégée et affamée. Alors en réalité, le président américain semble vouloir ici profiter de l'élan de la trêve entre Israël et l'Iran pour essayer d'arracher un accord à Gaza, ce qui, Thibault Lefèvre, est loin encore d'être fait.
Le président américain a beau vociférer sur trousse sociale et écrire en lettres capitales comme une injonction le mot « cessez-le-feu ». Pour le moment, les termes de la proposition américaine ont très peu évolué. Le 30 mai dernier, ce qu'on a appelé le plan Witkoff prévoyait peu ou prou les mêmes modalités. Trêve de 60 jours, libération de 10 otages en échange de prisonniers palestiniens. Et comme hier, Israël avait accepté cette proposition après avoir unilatéralement rompu la trêve 6 semaines plus tôt, comme une impression de déjà vu donc. Avec toujours les mêmes blocages, le Hamas exige le retrait des troupes israéliennes et la fin de la guerre. L'État hébreu ne veut plus voir l'organisation islamiste administrer Gaza et veut continuer à frapper si nécessaire. Ce qui a en revanche changé, c'est le contexte. Israël veut clairement faire plier le Hamas en utilisant la force. Les bombardements sont plus intenses ces derniers jours et les ordres d'évacuation sont incessants. 2 millions de Palestiniens survivent sur seulement 20% du territoire.
Donald Trump va-t-il remporter le premier succès législatif majeur de son second mandat? Hier, le Sénat a fini par adopter le grand et beau projet de loi budgétaire, baptisé ainsi par les Républicains, une victoire de justesse malgré tout, puisqu'il aura fallu le vote décisif du vice-président lui-même pour faire pencher la balance d'une seule voix. Et puis le texte doit désormais revenir à la Chambre des représentants. Or, le Congrès pourrait encore faire dérailler le processus. Pourquoi? Parce que ce projet de loi risque d'accroître considérablement le déficit public, ce qui n'est pas du goût de très nombreux élus conservateurs. Seule certitude, cette législation, si toutefois elle est approuvée, va en réalité d'abord exacerber les inégalités et les divisions dans une Amérique aujourd'hui déchirée par un président de plus en plus autoritaire. On termine avec un mot du temps pour aujourd'hui, dernière journée de canicule, donc avant que les températures ne redescendent. Quatre départements sont toujours en vigilance rouge, l'Yonne, l'Aube, le Cher et le Loiret, et 55 autres en vigilance orange, et à l'exception de quelques nuages, le long de la façade atlantique et près des côtes de la Manche, le soleil s'imposera partout. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Antoine Bochet, et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.